Religion du monde, Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Invitée de Religion du Monde pour ce début du mois du Ramadan, une jeune femme, imam de 41 ans, Kaïna Bahloul, première femme imam de France, qui a créé en 2019 la mosquée Fatima, une mosquée d'inspiration soufie, une mosquée mixte où hommes et femmes peuvent prier ensemble, mosquée ouverte aux femmes voilées et non voilées, ainsi qu'aux non-musulmans. Bonjour Kaïna Bahloul.
Bonjour et merci de m'accueillir.
C'est un grand plaisir. Vous racontez votre histoire, hein, votre histoire dans un livre, Mon Islam, Ma Liberté, publié chez Albin Michel. Et l'on comprend mieux effectivement votre parcours parce que, bon, cette femme, première imam de France, oui bien sûr, on en avait tous entendu parler, mais bon,
qui est-elle?
Bien sûr, qui est-elle? Et puis c'est le terme d'un parcours. Mmh. Alors, vous êtes née en France, mais très vite vous êtes partie avec vos parents en Algérie, vous avez grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans.
Tout à fait.
Vous revenez en France à l'âge donc de 24 ans et vous perdez votre père bien-aimé. Père vraiment, donc, vous étiez très très proches tous les deux et pour vous c'est un, bien sûr un grand drame personnel et on peut dire que c'est la perte du père qui va vous faire, je dirais, aller vers un chemin spirituel probablement qui n'était pas celui forcément que vous prévoyiez quand vous étiez une jeune fille en Algérie.
Tout à fait, je ne prévoyais pas du tout, lorsque j'étais jeune, qu'un jour je pourrais à ce point m'engager sur le plan religieux jusqu'à vouloir devenir imam. Mais c'est vrai que la perte de mon père, donc de qui j'étais très proche, m'a plongée dans une crise spirituelle et existentielle profonde qui a fait que j'ai ressenti le besoin d'approfondir ma connaissance de la spiritualité musulmane. Ça n'a pas été automatique. D'ailleurs, je suis passée par mon médecin traitant pour pouvoir accéder à cette tradition spirituelle. Je le raconte dans mon livre.
Catholique, c'est
catholique,
ça qui est extraordinaire.
C'est ça qui est incroyable. C'est que, donc, après cette perte de mon père, j'étais psychologiquement effondrée. Et un jour, je discutais avec mon médecin traitant, qui est une femme, une catholique, qui avait une sensibilité spirituelle très très forte. Et je lui faisait part de mon désarroi de ne pas trouver de quoi me nourrir spirituellement dans ma religion.
Une consolation.
Dans l'islam,
aussi.
Une consolation, oui, bien sûr. Et là, tout de suite, elle me dit, mais vous vous êtes intéressée au soufisme ? Et je suis sortie de son cabinet médical, je suis allée directement à la FNAC et j'ai acheté tous les livres que j'ai pu trouver sur le soufisme. Et ça a été le début d'un chemin.
C'était une révélation, on peut dire.
Une révélation, tout à fait, exactement. Lorsque j'ai commencé à lire ces livres, j'ai eu le sentiment d'une confirmation, parce que je n'ai pas eu le sentiment de découvrir quelque chose qui m'était étranger, en fait. En réalité, je crois que j'ai toujours eu cette vision au fond de moi-même, la religion ou l'islam, c'était ça, c'était le soufisme, c'était cette dimension intérieure et ce lien direct, intime et spirituel au divin. Et donc, j'avais soif de pouvoir trouver des lectures, des penseurs qui allaient pouvoir répondre ou avec lesquels il allait y avoir une résonance à ça. Et c'est vrai que ces lectures et cette découverte de la pensée soufie à travers ces lectures a été vraiment une révélation pour moi.
Et pourtant, Kaïna Bahloul, vous avez grandi en Algérie pendant les années de plomb.
Oui, oui, oui. J'ai grandi en Algérie et j'ai connu malheureusement la décennie noire, la montée de l'intégrisme islamiste. Je l'ai vraiment vu et j'ai vu la transformation sociale qu'elle a opérée au plus profond de la société algérienne. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais enfant, j'avais mes tantes. Donc qui ne portait pas le voile, qui ne se couvrait pas les cheveux, et on a vu petit à petit dans les années 90 arriver donc à travers ce discours de l'islam politique, de ces leaders religieux, je me rappelle, qui était un discours très culpabilisant pour les femmes et pour lesquelles on disait pour être une bonne musulmane il fallait absolument se couvrir, porter le voile. Et là on a vu donc des femmes porter le voile soit parce qu'elles Elle culpabilisait justement, elle croyait qu'il fallait absolument le porter, que c'était une obligation religieuse, et d'autres le portaient par peur, parce que beaucoup d'entre elles ont été menacées ou même assassinées à cause de cela. Donc j'ai vu s'opérer toutes ces transformations sociales dans l'Algérie de mon enfance et de mon adolescence.
Et cela précisément, Kaïna Bahloul, ça ne vous a pas détourné de l'islam? Ça aurait pu être aussi une réaction, en se disant, bah, si l'islam c'est ça, non, je ne reste pas.
Alors, au départ, bon, j'ai fini mes études de droit en Algérie, j'ai fait une maîtrise de droit en Algérie, et puis à l'âge de 24 ans, donc je décide de revenir en France. C'était au départ vraiment pour des raisons aussi personnelles. J'avais aussi besoin de compléter mon parcours, de mieux, parce que j'ai gardé toutes ces années où j'ai vécu en Algérie, où j'ai grandi en Algérie, j'ai gardé au plus profond de mon cœur aussi un vrai désir de la France, l'espoir de retrouver aussi ce pays où je suis née. Donc à l'âge de 24 ans, je décide de revenir. Mais l'expérience de la décennie noire m'avait un peu éloignée de la religion, pas de la spiritualité. Ma foi, au fond de mon cœur, était restée intacte. Et je crois que c'est vraiment peut-être le seul lien, donc ce lien intime avec Dieu, c'est ce qui m'a sauvée. J'ai gardé ce lien intime et ce dialogue constant avec Dieu. Mais je ne pratiquais plus la religion, ou en tout cas je ne voulais plus entendre parler de cette religion ou de cette façon de vivre et de comprendre la religion que j'ai connue durant la décennie noire.
C'est-à-dire normative, ce qui est permis, voilà. Pas permis, etc.
Très, très normative, très, et puis jusqu'à devenir violente malheureusement, parce que c'est une lecture très dogmatique et exclusive. C'est-à-dire qu'il y avait une seule façon, donc pour ces intégristes-là, le seul islam qu'il fallait garder et qu'il fallait pratiquer était leur islam, parce qu'ils avaient la conviction que c'était le vrai islam, et en dehors de cela, aucune opposition, aucune critique n'était possible. Donc cela, je le rejetais.
Votre père, Kaïna Bahloul, est berbère.
Oui.
Vous dites que vous avez grandi dans une foi, finalement, dans un milieu rural. Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose? Quelle était la foi de votre père?
Oui, je crois que le milieu rural a ceci d'exceptionnel, je veux dire, ou de particulier plutôt, d'offrir un environnement très paisible déjà parce
absolument.
Que voilà, on est j'ai grandi dans la nature. Là. Moi, j'ai grandi les oliviers de Kabylie. J'ai grandi, je me rappelle, durant toute mon enfance, j'ai grimpé sur les oliviers et les figuiers. Donc, ce rapport à la nature était très très fort. Et puis, mes grands-parents aussi avaient un rapport à la nature qui était très très fort. Donc, éloigné de toute récupération politique. Et il y avait justement aussi cette authenticité du retour à des choses très très simples et qui est illustrée encore une fois par ce lien à la nature. Et oui, c'était l'islam qui m'a été transmis par mes grands-parents et mon père en Kabylie.
Famille de marabouts, c'est cela?
C'est
ça. Quelques précisions.
Tout à fait, oui. Famille de marabouts. Alors, c'est ce que j'explique un petit peu de mon livre. Je tente de corriger un peu cette vision dévoyée, malheureusement, qu'on a en Europe, surtout en France, de marabouts. Lorsqu'on prononce le mot marabout, on pense tout de suite à des gens qui font de la sorcellerie, de la magie. Voilà, il y a tout un aspect un peu fantasmé là-dessus. Alors que moi, ce n'était pas du tout ça, mais c'était très très loin de cela. Être issu d'une famille de marabouts, c'était appartenir à une famille noble qui est descendante d'un saint, ou ce qu'on appelle en islam un wali, ou un ami de Dieu plutôt. Donc voilà, et comme dans l'islam, il n'y a pas de célibat, même les saints, même voilà, les religieux se marient, donc ils ont une descendance, et bien ces familles-là sont des familles descendantes de saints.
Et je précise, Kaïna Bahloul, que votre grand-père maternel est catholique, que votre grand-mère maternelle est juive.
Exactement. Donc, ma mère, qui est française,
elle est athée, c'est ça.
Ma mère est athée, mais ses parents sont, quant à eux, issus du judaïsme et du christianisme. Mon grand-père maternel est français catholique et ma grand-mère maternelle est juive, juive polonaise.
Ashkenaz. Ça explique cette ouverture à l'universel que vous manifestez?
Ah oui, complètement. Moi, je crois que s'il y a quelque chose qui me définit et qui m'a travaillé en profondeur depuis la petite enfance, c'est bien cela. C'est ce besoin, ce... Et puis, je considère que je suis le fruit, justement, de la rencontre, de la diversité, de l'altérité. Je suis au centre de toutes ces cultures, ces religions. J'en suis le fruit. Donc, toute ma vie a été un combat et un engagement pour se les faire rencontrer. Parce que, malheureusement, ce que j'ai constaté durant tout ce parcours, c'est que les uns ne connaissent pas les autres. Et souvent, on s'arrête sur des stéréotypes, sur des choses qu'on connaît très très mal. Et malheureusement, c'est ce qui a tendance à nous éloigner les uns des autres. Donc, je me suis toujours battue, justement, et lutté contre les stéréotypes pour pouvoir rapprocher les gens vers plus de connaissances des uns et des autres.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invitée est Kaïna Bahloul pour son livre « Mon Islam, ma liberté » publié chez Albin Michel. Alors, dès les premières pages de votre livre, vous expliquez effectivement ce parcours spirituel. Et moi, j'ai retenu cette phrase « En France, j'ai choisi, très important, oui. J'ai choisi d'être musulmane. »
Oui, 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 j'ai tenu à exprimer cela. Je suis musulmane, je l'ai toujours été, mais dans mon parcours, cette foi a évolué, cette appartenance à la religion musulmane a évolué. Elle m'a été transmise dans ma famille en Algérie, j'ai grandi dans cette culture, j'ai baigné dedans durant toute mon enfance, mon adolescence et en tant que jeune adulte. Mais après, il y a eu aussi beaucoup de choses qui m'ont interpellée dans la façon dont cette religion s'est incarnée quelquefois. Et c'est ce que je dis dans mon livre, je me suis autorisée à ce moment-là à me poser des questions, à remettre en cause beaucoup de choses.
À douter.
Et à douter.
Il n'y a pas de foi sans doute.
Je crois qu'il n'y a pas de foi sans doute, justement. Pour que la foi soit vivante, pour qu'elle puisse rester vivante, et pour que l'on puisse désirer quelque chose, espérer quelque chose, il faut qu'il y ait le doute à l'origine de ce mouvement ou de cet élan qui se crée dans le cœur envers la foi religieuse. Donc oui, j'ai douté. Et j'ai cherché longtemps, j'ai erré aussi. Et la France, j'ai été... J'ai beaucoup aimé et je dois dire que je m'en suis délectée lorsque je suis arrivée en France. C'était de découvrir, de pouvoir enfin vivre la liberté, une vraie liberté.
Liberté religieuse.
Ce que j'appelle vraie liberté, c'est la liberté intérieure, dans toutes ses dimensions. Religieuse, liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire. Et finalement, cette grande liberté, petit à petit... m'a permis, à travers mes questions, mes remises en cause, de découvrir un aspect de l'islam qui est total amour, fraternité, ouverture à l'autre, qui est la spiritualité musulmane. Donc c'est comme ça que j'ai découvert des grands penseurs spirituels de l'islam.
Alors que dans l'histoire longue de l'islam, ce qu'il ressort de ce qui effectivement nous est, j'allais dire, enseigné, c'est davantage un islam de conquête et moins l'islam intérieur.
Oui, justement, mais ça encore, c'est un stéréotype, je dois dire, contre lequel je
lutte. Vous luttez très clairement, absolument, oui.
Parce que, justement, à travers cette histoire longue de l'islam, à travers cette histoire qui s'est développée, qui a évolué sur durant plus de 14 siècles, eh bien, je ne crois pas que ce soit vraiment l'aspect conquérant qu'il faut retenir, bien au contraire. Alors, c'est vrai que les historiens, et puis selon leur sensibilité, vont mettre l'accent sur cet aspect-là, mais je ne suis absolument pas d'accord, d'autant plus que, je peux l'affirmer parce que je prépare une thèse de doctorat à l'École pratique des hautes études, où justement on aborde la question religieuse à travers la démarche historico-critique, où on découvre vraiment la pensée dans les sources primaires, eh bien, il y a une tradition mystique et spirituelle absolument extraordinaire, d'une richesse inouïe.
Notamment dans le chiisme.
Dans le chiisme aussi, mais dans le sunnisme beaucoup aussi. Et moi, ce que j'adore évidemment dans cette tradition, et même la tradition philosophique et théologique, de la théologie rationnelle par exemple, le mu'tazilisme. Et d'ailleurs, je tiens à le repréciser, notre mosquée a une double appartenance, soufi et mu'tazilite, parce que mon collègue Fakhar Korshan appartient au courant néo-mu'tazilite. Mais encore, voilà, ce que je voulais dire, c'était que tous ces courants-là de pensée se sont aussi énormément nourris avec les traditions théologiques, spirituelles et philosophiques des autres religions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la recherche scientifique, on vous dit qu'on ne peut plus continuer à faire de la recherche de manière fragmentée, c'est-à-dire religion par religion.
Il y a une porosité, de toute façon, évidente.
Une énorme porosité entre les trois monothéismes, en fait.
Et de même, vous travaillez également beaucoup les sciences sociales pour enrichir votre pensée.
C'est très important. Aujourd'hui, ce sont des outils que nous avons réussi à développer dans les sciences humaines, qu'il faut absolument utiliser justement pour revenir aux textes fondateurs et pour développer de nouvelles lectures, de nouvelles interprétations.
Alors, Kaïna Bahloul, quand même, une femme imam, c'est pas banal. Hein. Il y en a effectivement, au Danemark, en Afrique du Sud, aux Pays-Bas. Et dans d'autres pays, aux États-Unis bien sûr, mais en France, c'est une première. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'une transgression quand vous avez décidé de créer la mosquée Fatima, mosquée mixte ?
Pas du tout, pas du tout. Si je me suis autorisée à le faire, c'est que je me suis sentie vraiment autorisée et profondément en adéquation et en harmonie avec les fondements de l'islam, avec le cœur de son message spirituel en tout cas. Parce que si je pensais que c'était que ça n'était pas autorisé, et que si j'étais restée vraiment sur cette lecture très très superficielle, très normative de l'islam, je pense que je n'aurais pas eu accès à cette liberté et à ces lectures qui nous disent que finalement il n'y a absolument rien qui interdit aux femmes d'exercer cette fonction de ministère religieux. D'ailleurs, nous le voyons un peu aujourd'hui à travers le monde, un peu partout à travers le monde. Et c'est vrai que lorsqu'on revient au texte coranique, il n'y a absolument rien qui définit ce qu'est la fonction d'imam, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. C'est-à-dire que il faut avoir conscience que cette fonction-là a été créée plus tardivement pour organiser le culte musulman. Ce n'est pas une fonction coranique. Et puis après, par contre, dans la tradition prophétique, on trouve des textes, des traditions qui nous parlent du cas d'une femme qui a été désignée par le prophète lui-même pour être imam.
Mais c'était que auprès de femmes, en revanche.
Non, pas du
non,
tout, justement.
Vraiment. Ah bon, parce que il me semblait que c'était qu'auprès de femmes.
Vraiment, lorsqu'on analyse le texte, alors justement, en fait, beaucoup d'écoles de jurisprudence aujourd'hui disent cela. Ils disent oui, on peut accepter l'imamat de la femme, mais à condition que ce soit sur une assemblée de femmes. En fait, non, pas du tout. Lorsqu'on revient justement à ces traditions prophétiques et qu'on les analyse, on va voir que, en fait, cette tradition nous dit que le prophète a autorisé cette femme à guider la prière sur sa maisonnée. Et quand on essaie de voir et d'analyser quelle est la composition de cette maisonnée, eh bien, on va voir que d'abord il y a un muezzin, cet homme qui est désigné par le prophète pour faire l'appel à la prière, c'est un homme, et que les membres de sa famille étaient un homme esclave et une femme esclave. Donc, si à minima on s'en tient à la composition de la maison ou du foyer de cette femme, eh bien, il s'agit d'une assemblée mixte.
La différence entre une femme imam et une murshidat.
Alors le murshidat, c'est le pluriel de murshida.
Oui.
Donc les murshidat, on en trouve en Algérie, au Maroc. Ce sont des femmes qui ont la même formation théologique que les imams, sauf qu'elles n'ont pas l'autorisation de guider la prière collective. Alors que l'imam, lui, sa fonction principale est justement de guider la prière collective dans la mosquée. C'est la raison pour laquelle beaucoup font cette distinction entre justement l'imam et la murshida, qui, elle, peut simplement transmettre un enseignement religieux, mais ne peut jamais guider la prière, parce que souvent c'est lié à des questions de pureté, d'impureté. Le corps de la femme ne serait pas assez pur pour se tenir au lieu, ce qu'on appelle en arabe le mihrab, le lieu où l'imam se tient dans la mosquée pour guider la prière.
Quelle est votre formation, Kaina Baloul ? Pour devenir imam, que doit-on faire ? Que doit-on suivre comme enseignement ?
Alors, si on veut un peu revenir aujourd'hui aux grandes institutions de l'islam sunnite qui proposent ces formations d'imam, on a par exemple Al-Azhar en Égypte, on a la Zaytouna en Tunisie, mais il n'y a pas que cela, il y a aussi beaucoup d'universités, par exemple en Turquie. La formation d'imam se fait à l'université, ou alors vous avez aussi des écoles qui proposent des formations d'imam. Ceci dit, moi j'ai choisi un autre cursus, parce que je considère que la formation d'imam aujourd'hui est très dogmatique. Donc selon le pays dans lequel vous la faites, eh bien, il y a forcément un choix dogmatique qui est fait par le ministère religieux de ce pays-là. Moi, j'avais envie de sortir de cette vision dogmatique de l'islam, et moi, ce que j'ai choisi, justement, c'est l'école pratique des hautes études, et donc la possibilité d'aborder la lecture et l'interprétation des textes à travers la démarche historico-critique.
Donc celle menée effectivement par des réformateurs dont vous parlez, hein, des réformateurs de l'islam,
tout à fait.
Qui ne sont pas très nombreux, mais enfin qui existent, qui ont souvent une vie difficile dans leur pays d'origine. Vous les soutenez très clairement.
Oui. Alors, on les connaît pas très bien. Moi, je dirais, j'ai plutôt envie de dire qu'ils sont plus nombreux en réalité que les revivalistes, parce que je parle dans mon livre justement.
Revivalistes, c'est-à-dire.
Je fais la distinction entre les vrais réformistes, les vrais penseurs réformistes, et ceux qui ont justement à un moment donné ont utilisé ce mouvement, ce courant réformiste naissant donc du 19e siècle, et l'ont plutôt dévoyé dans l'autre sens pour créer un mouvement, alors qu'ils appellent toujours islah en arabe, hein, réformiste, mais en réalité qui se fonde sur d'autres idées. Alors les réformistes, eux, on va dire qu'il y a des critères pour savoir qui sont les vrais réformistes des revivalistes.
Ne serait-ce que la lecture historico-critique.
Par exemple, bien sûr. Alors, on a parmi eux de grandes universités qui ont enseigné dans les plus grandes universités occidentales. On a par exemple Mohamed Harkoun qui a enseigné à la Sorbonne. Il y a Abu Zaid aussi qui a enseigné dans un pays scandinave, je me rappelle plus du nom. Mais voilà, ce sont de grands penseurs réformistes qui ont adopté justement une démarche historico-critique, et aussi la démarche, une lecture à travers les sciences humaines et sociales. Mais juste pour revenir à cette distinction entre les vrais réformistes et les vrais revivalistes, il y a une thèse qui a été faite par un enseignant-chercheur en France qui s'appelle Steven Duart, je le cite dans mon livre, et qui a fait une typologie en fait de ces penseurs-là. Et en fait, il dit très clairement, un des critères les plus importants à mon sens, c'est dans leur rapport à l'altérité, l'altérité religieuse ou toute autre altérité en fait, ça peut être aussi l'altérité féminine, et en fait où il dit que les vrais réformistes prennent cette altérité comme une donnée positive et constitutive de notre humanité, et donc à intégrer dans l'interprétation des textes comme étant une donnée positive. Par contre, les revivalistes, ceux qui justement ont détourné ce courant d'islah, de réformisme, pour en faire un courant revivaliste, eux par contre, ils sont dans une représentation du passé qui est complètement mythifiée, qui n'est pas du tout réaliste, et donc ils sont sans cesse dans un mouvement de retour en arrière vers ce passé complètement mythique, et puis dans le rejet de l'altérité qui est considérée comme étant un risque pour la vraie et la bonne religion.
Vous écrivez, Kaina Baloul, que c'est en 2015, après les attentats, que vous allez décider de vous engager sur cette voie, justement, de la réforme.
Oui, tout à fait. C'est en 2015, donc après les attentats, que j'ai décidé de m'engager surtout dans le domaine associatif, pour pouvoir proposer un discours alternatif sur la religion aux jeunes français, aux jeunes musulmans français. Parce que, voilà, j'ai vécu moi-même l'intégrisme religieux et je voyais, je comprenais tout à fait ce qui se passait, enfin, cet endoctrinement qui opérait en profondeur et j'avais envie, j'ai ressenti même la nécessité et l'urgence de dire à ces jeunes-là, attention, voilà, tous ces discours de l'islam politique qui, en réalité, tente d'endoctriner les jeunes, de les manipuler. Eh bien, voilà, j'avais envie de dire, d'avoir une parole pour dire, faites attention, voilà, il y a d'autres façons de lire, d'aborder les textes. Oui, c'est à ce moment-là que mon engagement a pris naissance.
Quand Emmanuel Macron parle de séparatisme, manifestement, vous n'allez pas dans son sens. Il y a pourtant du séparatisme. Il y a des jeunes qui ne veulent pas précisément, qui veulent une séparation, qui ne veulent pas se mélanger, qui veulent rester à l'intérieur de leur communauté. Ça existe, cela.
Je ne le nie pas, je ne dis pas que ça n'existe pas. Oui, ça existe. Mais à mon sens, c'est une minorité, ça c'est important de le rappeler, parce que la grande majorité des musulmans, moi je les connais, hein, tous les musulmans que j'ai dans mon entourage sont des musulmans, des citoyens français complètement intégrés dans la société française, qui contribuent à construire ce pays au quotidien. Et l'utilisation de ce mot séparatisme, je ne l'ai pas trouvé voilà judicieux, intelligent, parce qu'il ne fait que renforcer cette idée qu'on a de l'islam de manière générale, où justement ça ne fait que renforcer encore une fois un stéréotype, un cliché sur l'islam. Et puis, ça le renforce probablement des deux côtés. Ça le renforce non seulement auprès de cette jeune génération de musulmans qui sont dans le séparatisme, et quelquefois peut-être aussi parce qu'ils vivent des situations difficiles, où ils se sentent probablement exclus aussi de cette société française. Et puis de l'autre côté aussi, ça crée une image de l'islam que l'on croit être par essence une religion qui est là pour séparer l'humanité.
Qui ne peut pas s'adapter à la République.
Tout à fait.
Les jeunes qui viennent, parce que ce sont les jeunes essentiellement qui viennent dans votre mosquée, qui sont-ils là?
Eh bien, ce sont des jeunes français, musulmans, soit vraiment d'origine musulmane ou alors convertis quelquefois. Mais souvent, ce sont des jeunes qui se posent beaucoup de questions, justement, sur leur religion et qui cherchent à comprendre un petit peu plus cette religion et qui cherchent une autre façon de vivre aussi leur religion qui soit en harmonie avec les valeurs de notre République, mais aussi surtout qui répondent à leurs besoins de vivre une spiritualité, mais une spiritualité complètement ancrée et en harmonie avec notre société d'aujourd'hui.
Est-ce que vous discutez des sujets précisément d'aujourd'hui, par exemple les questions écologiques? Est-ce que vous organisez en dehors du prêche des rencontres précisément?
Oui, alors on essaye avec la crise sanitaire, c'est compliqué, mais on essaye d'aborder toutes ces questions. Nous faisons souvent des lives sur les réseaux sociaux. Et oui, toutes ces questions-là viennent, bien sûr. Les jeunes aujourd'hui se sentent complètement concernés par ces questions d'écologie. Par exemple, comment le sacrifice des animaux, comment faire en sorte que l'on respecte la vie animale et que ce ne soit pas juste voilà une consommation pour la consommation, mais qu'il y ait un véritable respect. Mais aussi, il y a beaucoup de questions qui viennent aussi concernant le mariage mixte, par exemple. Alors, je crois que en termes de nombre, la première question qui revient, c'est celle-ci. Alors moi, j'en suis ravie, je suis absolument heureuse de voir de jeunes couples mixtes qui se constituent. J'ai célébré des mariages religieux entre des musulmanes et des non-musulmans. Voilà, souvent ce sont des chrétiens d'ailleurs. Donc voilà, c'est très vivant, c'est très... Et puis moi, ça me donne beaucoup d'espoir en cette jeunesse.
Vous êtes combien à peu près à venir à vous retrouver? Alors maintenant, évidemment, c'est en visio, mais sinon autrement...
On avait commencé nos prêches, en fait, juste avant la crise sanitaire. Hein, donc notre mosquée n'est pas très, très ancienne. Elle est naissante en réalité. Mais on était à peu près une trentaine de personnes au départ. Et puis maintenant, ça se fait sur les réseaux sociaux. Donc les gens ont la possibilité de regarder aussi en décalé nos interventions.
Mais sinon, le lieu était tenu tout à fait secret, j'allais dire.
Le lieu, d'abord, il faut dire que nous n'avons pas de lieu fixe pour l'instant. Hein. On n'a pas de salle pour l'instant. On est toujours à la recherche d'une salle. Alors, nous avions la possibilité simplement de louer une salle 2 heures le vendredi après-midi pour l'office de la prière du vendredi.
Mais de façon très discrète quand même.
Très discrète,
question de sécurité,
bien sûr,
évidente,
bien sûr,
absolument
oui,
évidente.
Oui, tout à fait.
Comment allez-vous concevoir ce mois du Ramadan, Kaïna Baloul?
Eh bien, la crise sanitaire nous contraint beaucoup, mais voilà, nous tenons absolument à garder toujours le lien avec nos fidèles, les personnes qui nous suivent. Donc, il y aura probablement beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux, à travers nos lives, et puis voilà, probablement des moments où on peut se réunir, mais vraiment en nombre réduit. Mais ce qui compte, c'est vraiment la communion spirituelle, même si elle n'est pas physique.
Vous êtes heureuse? Vous êtes une imam heureuse?
Oui. Heureuse, ce n'est pas toujours facile, mais je suis heureuse de voir l'intérêt que cela suscite et le grand espoir aussi que cela suscite et peut-être des vocations aussi. Il y a beaucoup de filles qui me posent plein de questions. Donc je pense que c'est une voie qui s'ouvre.
Vous avez le sentiment effectivement d'être un défricheur?
Peut-être. Peut-être. Comme la reine qui,
oui.
dont je porte le nom. La Kaïna, la reine Kaïna. Mais il y a aussi, bon, Baloul, c'est mon patronyme. C'est un saint, c'est le nom d'un saint.
C'est ça, Kaïna. Donc, cette femme qui disait, elle avait une devise.
Elle avait une devise, oui. Elle disait, nous briserons, mais nous ne plierons pas.
Alors, vous ne plierez pas?
Non, je ne plierai pas. Je ne pense pas.
Merci Kaïna Baloul. Je rappelle le titre de votre livre Mon Islam, ma liberté, et c'est publié chez Albin Michel. Merci.
Merci à vous.
Le 21 mai 2020, fête de l'Ascension, une femme se portait candidate à l'archevêché de Lyon pour succéder au cardinal Philippe Barbarin des missionnaires. Anne Soupa est bien connue dans l'Église qu'elle sert depuis 35 ans comme bibliste, essayiste et cofondatrice avec Christine Pedotti de la Conférence des baptisés et du Comité de la Jupe, deux associations pour repenser le mode de gouvernance et la place des femmes au sein de l'Église. Sa décision fut un pavé dans la mare. Sa candidature, effectivement, devait largement dépasser les frontières de l'Église. Un an après, elle s'en explique dans un livre « Pour l'amour de Dieu » publié chez Albin Michel. Bah, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une militante, hein, mais vous êtes une militante qui est plutôt restée, on va dire, dans les clous jusqu'ici. Est-ce que là, c'est vraiment la voie de la désobéissance que vous avez décidé d'emprunter?
Ça n'est pas pour désobéir. Ça n'est pas mon but premier. Mon but premier est de faire une sorte d'unité en moi-même, parce que je ne peux plus supporter d'être une personne clivée, c'est-à-dire entre un hémisphère dans la société où ma condition de femme est une condition égale à celle des hommes, et mon adhésion religieuse où les femmes sont invisibilisées, où je deviens un être second. Et vous savez, quand j'ai candidaté, je n'ai eu que de la joie, je n'ai eu aucune peur. C'est un sentiment qui ne m'a pas traversée. Je me suis simplement réjouie de refaire cette unité en moi.
On va revenir précisément sur les conditions de ce geste, un geste sans précédent. Ça s'est quasiment passé au cours d'un repas familial, parce que je précise que vous avez 73 ans, que vous êtes mère de 4 enfants, des grands-enfants aujourd'hui. Et lors d'un repas familial, votre fils propose votre candidature.
Oui, ça a été effectivement quelque chose de très brutal auquel je ne m'attendais évidemment pas. On était en train de discuter de l'institution ecclésiale et je me plaignais un peu parce que moi je suis une active, une réformatrice, quelqu'un qui a envie d'avancer. Et je voyais que pendant le confinement, les évêques avaient beaucoup plus envie de garder les messes plutôt que de contribuer à sauver des vies en se confinant. Bon, donc ça me contrariait. Et mon fils, avec une logique implacable, il a compris qu'il fallait que j'arrête de me plaindre. Et la meilleure façon de sortir de la plainte, c'est d'agir. Et il m'a dit, mais maman, mais présente-toi. Et venant de mon fils, qui me connaît très bien, qui a suivi tous mes engagements, je me suis dit, s'il le dit, c'est pas une parole en l'air, c'est aussi un vrai appel. Donc je dois écouter au moins. Et c'est vrai que dans la demi-journée, j'étais acquise à cette idée qui ne m'avait auparavant jamais traversé l'esprit.
Voilà. Alors, c'est devenu tout de suite public, puisque votre démarche a consisté à envoyer votre candidature au nonce, puisque c'est comme ça, c'est le nonce en France qui donne des noms au pape, et le pape répond bien sûr, choisi, et puis également à l'AFP, à l'Agence France Presse.
Oui, j'ai envoyé en même temps ma candidature au nonce et à l'Agence France Presse, et je sentais bien à l'attention que la jeune femme de l'Agence France Presse avait envers ma candidature, je sentais bien que ça l'intéressait énormément et que l'affaire allait me dépasser, elle allait être livrée aux médias, à l'opinion publique. Par contre, j'ai été très déçue que le nonce ne réponde pas et n'ait toujours pas répondu, ce qui fait que d'une certaine manière, eh bien, ma candidature court toujours. Tant qu'on ne m'a pas répondu avec des arguments qui sont honnêtes, réfléchis, solides, je considère que je suis toujours candidate.
Quelles furent les réactions dans l'Église ? Est-ce qu'il y a les femmes qui vous ont dit « bravo » ou bien est-ce que c'est vous avez transgressé, vous n'êtes pas prête, il n'y a qu'un prêtre qui peut effectivement devenir évêque ou archevêque hein.
Alors d'abord, il y a eu des gens choqués, il y a eu les deux, il y a eu des gens très enthousiastes et des gens très choqués. Il y a eu des gens choqués parce qu'on ne candidate pas dans l'Église. On attend d'être appelé à une charge. Et je comprends très bien ce mécanisme. Je savais très bien qu'en candidatant, comme pour aller dans une entreprise, je m'exposais à la critique, alors que j'aime la manière de l'Église d'attendre, d'appeler, de réfléchir et de laisser l'autorité ecclésiale décider. Je trouve que c'est très sain.
D'ailleurs, bon. Le mot « vocation » vient de...
Vocare, appelé, bien sûr. Voilà. Alors, les réactions, en fonction de cette espèce d'entorse que je faisais à l'habitude, à la tradition, les réactions ont été très contrastées. Je crois que sur les réseaux sociaux, ça a été violent, que j'ai été affublée de beaucoup de noms d'oiseaux. Mais comme je ne suis pas allée voir, ça ne m'a pas atteint. J'ai laissé parler. Et vous savez, j'aime beaucoup que les consciences évoluent. Parce que c'est un fait d'histoire, c'est un fait constaté, nous bougeons. Regardez pour la question du mariage homosexuel, comme les consciences ont évolué. Et pour la question de la place des femmes, je pense que ce sera la même chose. Alors quand les gens expriment de manière très violente leur opposition, je suis presque contente, je me dis « Ah, peut-être que dans 6 mois, ils penseront autrement ».
Il y a eu 18 000 signatures.
Oui, la pétition qui a suivi ma candidature a été assez bien honorée parce que je suis très reconnaissante envers ces personnes qui m'ont soutenue. Et puis j'ai eu beaucoup de courriers, beaucoup de débats sur des antennes de radio avec des personnes, des auditeurs qui appelaient. Donc j'ai pu me rendre compte que pour beaucoup de femmes, ça a été quelque chose de très encourageant, comme si un plafond de verre sautait. Beaucoup de femmes se sont dit « Eh oui, et pourquoi pas moi ?» Et ça, c'est mon vœu le plus cher, que des femmes se disent « Mais je ne suis pas indigne d'une telle fonction, pourquoi pas moi ?»
Et alors, vous êtes allée avec une journaliste, c'est ça, dans la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Et oui. Là, pourquoi en fait ? Pourquoi être allée dans ce lieu ? C'était pour prendre des photos ? C'était pour illustrer un article ?
C'est la journaliste qui l'avait choisie, elle voulait faire des photos. Je sais que c'est la raison, mais pour moi, ça a été un moment très fort où je me suis dit, je ne suis pas seulement une candidate aujourd'hui, il faut que je fasse l'évêque, que je me mette dans la peau de l'évêque. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas? Et je me suis rendu compte que la sagesse, me semble-t-il, est de garder des ornements qui paraissent dérisoires, mais qui sont associés à la fonction, comme la crosse, la mitre, l'anneau. Il y a la croix surtout, c'est l'essentiel. Bon, voilà, j'ai détaillé chacun de ces objets en me demandant ce que j'en ferais. Et j'ai trouvé l'exercice un peu dur, exigeant.
Vertigineux un peu.
Oui, oui, oui. Et je m'y suis pliée de très bon cœur en me disant que voilà, il fallait affronter toutes ces questions et que la tradition avait du bon.
C'est ça. Vous êtes aussi une femme de tradition progressiste et de tradition.
Oui, parce que la tradition, c'est quelque chose qui nous vient de ceux qui nous ont précédés. Donc c'est très respectable. Donc il faut à la fois entendre le monde moderne et ne pas oublier les traditions qui nous précèdent.
Dans votre livre, Anne Soupa, cette première partie qui raconte cette prise de décision et la façon dont finalement vous l'assumez très bien. À aucun moment, semble-t-il, vous n'ayez vraiment eu un vertige par rapport à ce choix de contacter et l'AFP et le nonce pour leur dire que vous portiez candidate. Une deuxième partie tout à fait intéressante parce que moi je pensais personnellement que c'était un coup. Vous vouliez créer une sorte d'électrochoc au sein de l'Église pour leur dire les femmes doivent avoir leur place. Et puis, on en reste là. Pas du tout. Dans la deuxième partie, j'ai compris que votre candidature était très sérieuse. Vous estimez aujourd'hui qu'une femme laïque, mère de famille, peut être un évêque hors les murs.
Oui, c'est quelque chose à laquelle j'ai réfléchi depuis longtemps, même si je ne l'avais pas mis en forme avant. Oui, un évêque peut ne pas être un prêtre, pour moi. Bien sûr, c'est contraire au droit canon, je le comprends bien. Mais il faut se donner la liberté de faire jouer un petit peu les fonctions, les nominations, les sacrements. Il y a du jeu là-dedans. Pour regarder devant, il faut faire jouer tout ça. Et je me suis souvenue que les premiers évêques dont on a des souvenirs, c'est Ignace d'Antioche à peu près en l'an 100, eh bien ces évêques n'étaient pas prêtres au sens moderne du mot. C'étaient des personnalités fortes, charismatiques, reconnues dans leur communauté, qui avaient la charge d'unifier un diocèse, d'un mot qui vient de l'administration romaine, bon, unifier ce diocèse, créer une communion entre tous, veiller aux hérésies et surtout annoncer l'évangile. C'est la fonction première d'un évêque et c'est la fonction de tout baptiser. Donc je pense que un évêque laïque n'est pas plus inapte qu'un évêque ordonné.
Évêque, ça vient de épiscopos, qui veut
dire qui veut dire surveillant, protecteur.
Ouvrir l'œil.
Voilà. C'est celui qui a des yeux pour regarder tout. C'est celui qui a un bon regard et qui annonce l'évangile d'abord.
Dans votre livre, Anne Soupa, pour l'amour de Dieu, donc publié aux éditions Albin Michel, vous écrivez, en résumé, je suis faite pour le job. C'est un job que j'aimerais, parce que j'ai une foi profonde, évidemment, parce que je veux annoncer l'évangile, aussi parce que j'ai le goût de la chose publique. Vous avez fait Sciences Po, d'ailleurs. Hein ?
Oui, oui, c'est vrai que c'est une phrase que je me disais, mais très, très facilement. Ah, j'aurais fait un bon évêque. Bon, parce que j'ai le goût de la chose publique, tout ce qui concerne la manière dont les gens vivent, c'est passionnant, c'est là qu'on rencontre le Christ, c'est dans le quotidien des gens. Bon, et donc j'aurais aimé effectivement avoir ce rôle de rassembleur, d'annonceur de l'évangile. Et parmi ces différentes manières de concevoir le job, comme vous me le dites, il y a celui d'ouvrir les pages de la Bible, en particulier des évangiles, avec les fidèles et d'être la petite lumière clair, qui éclaire les pages de l'Évangile et les nombreux enseignements de vie qu'on peut en tirer.
C'est une protestantisation là, que vous êtes en train de réaliser, de souhaiter.
Mais quand on dit ça, on a la vue courte. Oui. Parce que moi, je reviens aux origines, au temps apostolique, au premier siècle de l'Église. C'est ça ma référence. Alors que ce soit la même manière que celle que les protestants ont utilisée, peut-être, mais c'est pas une injure d'être protestant.
Alors, on va aussi vous rétorquer, et les sacrements là-dedans, qu'est-ce que vous en faites?
Alors,
l'Eucharistie?
Je n'en sais rien pour le moment, parce que ce sont des bouleversements si profonds que j'envisage. C'est une deuxième bombe dans ma candidature de dire, voilà, je ne veux pas être ordonnée, parce que le ministère ordonné est en crise et que ça ne sert à rien de rester dans une fonction qui est mal définie, qui aujourd'hui ne recueille plus l'adhésion de tout le peuple de Dieu. Donc il faut envisager autre chose, et ça n'est pas une... Rentrer dans cette réforme d'admettre un évêque laïc, ça n'est pas quelque chose que je vais résoudre tout seul. Je peux bouger des pions, mais c'est un exercice intellectuel. Après, ce qu'il faut, eh bien, c'est se rassembler, s'écouter, discuter et construire ensemble.
Une alter-église, en fait.
Une nouvelle église à l'intérieur de l'église.
Pour vous, de toute façon, cette voie, Anne Soupa, elle est quasiment inévitable, indispensable. Vous donnez des chiffres. Il n'y a plus que 1,8% des catholiques qui vont à la messe.
Des Français. 1,8%
oui.
Des Français.
Ouais,
alors
sûr,
que,
oui.
Si vous voulez, 60% des Français se disent catholiques. Et il n'y en a plus que 1,8% qui va à la messe. Donc ma question, c'est les 57,5, si je ne me trompe pas dans mes calculs, où sont-ils? Que veulent-ils surtout? Qui les écoute? Qui leur demande comment ils vivent leur catholicisme? L'important, c'est comment est-ce que je peux être chrétien aujourd'hui? Comment est-ce que je fais le bien? Comment est-ce que j'aime mon prochain? Comment est-ce que je n'exclus personne? Voilà, les vraies questions, elles sont là. Et vous voyez, Hans Küng est mort il y a une semaine, et ça, c'est la position de Hans Küng. Et j'ai bien entendu sur les réseaux sociaux des détracteurs me dire, mais enfin, Hans Küng était-il encore chrétien?
Oui, donc le théologien, il faut vous rappeler, théologien suisse.
Alors c'est un grand théologien suisse qui a été écarté d'enseignement par Rome.
Détracteur de Benoît XVI, hein, très fortement.
Oui, alors qu'ils étaient amis d'école,
oui.
Etc. Bon, mais l'important, c'est que Hans Küng met l'accent sur l'existence chrétienne. Voilà. Et moi, je pense que ça aussi, c'est fondamental. Et que c'est une des raisons majeures qui gêne les catholiques qui sont partis, c'est qu'ils ne veulent pas entendre des dogmes dont ils ne savent pas comment ils se traduisent dans leur vie.
Oui, vous dites d'ailleurs qu'ils ne supportent plus le prêtre qui veut dire « Jésus veut ceci, Jésus ne veut pas cela ».
Alors c'est encore autre chose. Tout clergé a tendance à instrumentaliser Dieu. C'est-à-dire, je sais ce que veut Dieu, donc je vous demande de faire ceci, Dieu ne veut pas cela, il veut cela.
Bon, oui, ça, c'est une tentation dans toute la religion. Hein.
Bien sûr, ça, c'est terrible. On connaît la volonté de Dieu et on parle à sa place. Bon, et là, je pense que le clergé a besoin de se taire un peu sur Dieu et de regarder l'existence chrétienne. Mais pour regarder l'existence chrétienne, il faudrait qu'il mène la vie de tout le monde. C'est-à-dire avoir une vie affective, avoir une vie familiale comme beaucoup de gens, gagner sa vie. Voilà des conditions qui ne sont pas réalisées actuellement par le clergé et qui, selon moi, le conduisent dans une impasse.
Pour vous, le laïc est plus à même de répondre
bien
à l'attente.
Bien parce sûr, que, parce que le laïc est plus près de l'existence
quotidienne.
Il mène la vie de tout le monde.
Alors, c'est la fin du clergé?
Ah, je pense que c'est la fin du clergé un jour ou l'autre. Il ne s'agit pas de critiquer les personnes. Les prêtres sont des personnes très respectables. Mais c'est un système, c'est une structure qui ne peut plus répondre aux attentes modernes.
Sans ordination par an, c'est de toute façon
exactement,
extrêmement court.
C'est rien sans ordination, ça ne peut pas satisfaire les besoins du peuple. On attend d'être aidé à vivre en chrétien.
Je vous remercie Anne Soupa, je rappelle le titre de votre livre « Pour l'amour de Dieu » et c'est publié chez Albin Michel. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.